18. Hodges essaie de nager sous la douleur et de rester endormi, mais elle ne cesse de le tirer à la surface, jusqu'à ce qu'il remonte complètement et ouvre les yeux. Il tâtonne à la recherche de son réveil et voit qu'il est 2 heures du matin. Une mauvaise heure pour se réveiller, peut-être la pire. Quand il souffrait d'insomnie après son départ à la retraite, il voyait 2 heures comme l'heure du suicide. Et maintenant, il pense, c'est probablement à cette heure-ci que Madame Ellerton l'a fait. 2 heures du matin. L'heure où il semble que le jour ne se lèvera jamais. Il sort du lit, marche lentement jusqu'à la salle de bain et sort le gros flacon de gélusil format économique du placard à pharmacie en faisant bien attention de ne pas se regarder dans la glace. Il avale 4 bonnes gorgées, puis se penche au-dessus du lavabo, attendant de voir si son estomac va l'accepter ou appuyer sur le bouton éjecte, comme pour la soupe au poulet. Le médicament reste en place, et la douleur commence même à se dissiper. Des fois, ça fait ça, le gélusil. Pas toujours. Il hésite à retourner au lit, mais il a peur que la douleur lancinante ne revienne dès qu'il sera en position horizontale. Alors il se traîne jusqu'à son bureau et allume l'ordinateur. Il sait que c'est le pire moment pour rechercher les causes possibles de ses symptômes, mais il ne peut plus résister. Son fond d'écran apparaît, encore une photo d'Ali enfant. Il pointe la flèche vers le bas de l'écran pour ouvrir Firefox, puis se fige. Il y a une nouvelle icône dans le dock. Entre la bulle des messages et la caméra de FaceTime, il y a un parapluie bleu avec un petit 1 rouge au-dessus.
Un message sur le parapluie bleu de débit, dit-il. Ça alors?
C'est un Jérôme Robinson beaucoup plus jeune qui avait installé le parapluie bleu sur son ordinateur il y a de ça presque 6 ans. Brady Hartsfield, alias Mr. Mercedes, voulait dialoguer avec le flic qui n'avait jamais réussi à le coincer, et bien que retraité, Hodges avait eu très envie de discuter. Car lorsque des fumiers de l'espèce de Brady Hartsfield se mettaient à parler, il n'y en avait pas beaucoup des comme lui, Dieu merci, il n'était plus qu'à 2 doigts de se faire choper. C'était particulièrement vrai des arrogants, et Hartsfield était l'arrogance personnifiée. Ils avaient chacun leur raison de vouloir communiquer sur un site sécurisé et réputé intraçable, dont les serveurs étaient localisés quelque part dans l'Europe de l'Est la plus obscure et la plus profonde. Hodges voulait pousser l'auteur du massacre du City Center à commettre une erreur qui aiderait à l'identifier. Mr. Mercedes voulait pousser Hodges à se suicider. Après tout, il avait réussi avec Olivia Trelawney. « À quoi ressemble votre vie ?» avait-il demandé la toute première fois qu'il avait écrit à Hodges dans la lettre arrivée par la poste. « À quoi ressemble votre vie maintenant que l'excitation de la chasse est derrière vous ?» Et puis, « Vous voulez garder contact ? Essayez sous le parapluie bleu de débit. Je vous ai même créé un compte. Kermit la grenouille 19. » Grandement aidé par Jérôme Robinson et Holly Gibney, Hodges avait traqué Brady et Holly l'avait mis KO. En récompense, Jérôme et Holly avaient reçu 10 ans de services municipaux gratuits. Hodges avait reçu un pacemaker. Il y avait eu des pertes et des chagrins auxquels Hodges n'a pas envie de penser. Pas même après toutes ces années. Mais pour la ville, et surtout pour ceux qui étaient au Mingo ce soir-là, on pouvait dire que tout s'était bien terminé. À un moment entre 2010 et aujourd'hui, l'icône du parapluie bleu avait disparu du dock en bas de son écran. Si Hodges s'était questionné à ce sujet, il ne se rappelle pas l'avoir jamais fait, il avait dû présumer que soit Jérôme, soit Holly l'avaient balancé à la corbeille lors d'une de leurs missions de réparation du nouvel outrage perpétré par Hodges sur son pauvre Mac sans défense. Au lieu de quoi, l'un d'eux avait dû le glisser dans le dossier application où le parapluie bleu était resté, hors de vue, pendant toutes ces années. Diantre, peut-être même que c'était lui qui l'avait fait et qu'il ne s'en souvenait pas. La mémoire a tendance à avoir des ratés passé 65 ans, quand les gens franchissent la 3e base et entament le dernier sprint vers le marbre. Il déplace la souris sur le parapluie bleu, hésite, puis clique. Son écran de bureau est remplacé par un jeune couple sur un tapis volant flottant au-dessus d'une mer infinie. Une pluie argentée tombe, mais le couple est en sécurité et au sec, sous un parapluie bleu grand ouvert.
Ah, que de souvenirs!
Il entre Kermit la grenouille 19 en guise de nom d'utilisateur et de mot de passe.
N'est-ce pas ainsi qu'il procédait à l'époque, conformément aux instructions de Hartsfield?
Il n'en est plus très sûr, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il appuie sur la touche « Entrée ». La machine réfléchit une seconde ou deux, ça semble plus long, et hop, le voilà connecté. Il fronce les sourcils devant ce qu'il voit. Brady Hartsfield utilisait Merci Tueur comme pseudonyme. Ça, Hodges s'en souvient très bien. Mais là, c'est quelqu'un d'autre. Ce qui ne devrait pas le surprendre, vu que Holly a réduit en purée le cerveau détraqué de Hartsfield. Et pourtant, il est quand même surpris.
Z-Boy veut discuter avec vous. Voulez-vous discuter avec Z-Boy? Oui? Non?
Hodges clique sur « Oui ». Et l'instant d'après, un message apparaît. Une seule phrase. Une demi-douzaine de mots, mais Hodges les relit encore et encore. Non pas mu par la peur, mais par l'excitation. Il tient quelque chose là. Il ne sait pas quoi, mais il a le sentiment que c'est quelque chose de gros.
Z-Boy, il en a pas encore fini avec vous.
Hodges fixe le message, sourcils froncés. Enfin, il s'avance à l'extrême bord de son fauteuil et écrit.
Kermit la grenouille 19. Qui n'en a pas fini avec moi? Qui êtes-vous?
Pas de réponse. 19. Hodges et Holly retrouvent Pete et Isabelle au Dave's Diner, une gargote à une rue de la frénésie matinale d'un certain endroit nommé Starbucks. Le premier rush de la matinée est passé. Ils ont l'embarras du choix pour s'asseoir et s'installent à une table du fond. De la cuisine, leur parviennent une chanson des Badfinger et les rires des serveuses.
« Je n'ai qu'une demi-heure devant moi, » dit Hodges. « Ensuite, il faut que je file chez le docteur. »
Pete se penche en avant, l'air inquiet.
« Rien de grave, j'espère ?»«
Non, ça va, je me sens bien. »
Et ce matin, c'est effectivement le cas. Comme s'il avait 45 ans à nouveau. Ce message sur son ordinateur, aussi énigmatique et sinistre soit-il, semble avoir eu plus d'effet que le gélusil.
Ok, venons-en à ce que nous avons trouvé. Holly, montre-leur les preuves A et B.
Holly a apporté sa petite sacoche écossaise. Et elle en sort, non sans réticence, le zapit Commander et le capuchon de protection des jumelles trouvés dans le garage du 1588. Ils sont tous deux dans des sachets en plastique, bien que le capuchon soit toujours enveloppé dans les mouchoirs.
« Qu'est-ce que vous avez fabriqué, vous deux ?» demande Pete.
Il fait de son mieux pour paraître amusé, mais Hodges entend comme une pointe d'accusation dans sa voix.
« Enquêtez !» répond Holly.
Et bien qu'elle évite d'ordinaire le contact visuel, elle balance un rapide coup d'œil à Easy James, comme pour dire « Tu piges ?»«
C'est-à-dire ?» fait Easy.
Hodges raconte, pendant que Holly, assise à côté de lui, garde les yeux baissés sur son déca, elle ne boit que ça, qu'elle n'a pas touché. Ses mâchoires bougent cependant, et Hodges devine qu'elle s'est remise aux nicorettes.
« J'en reviens pas, » dit Easy quand Hodges a terminé.
Elle plante un doigt accusateur dans le sachet contenant le zapit.
« Vous avez pris ça, l'avez emballé dans un magazine comme un vulgaire morceau de poisson et l'avez embarqué ?»
Holly se ratatine sur sa chaise. Ses mains sont si serrées sur ses genoux que les phalanges en sont toutes blanches. D'ordinaire, Hodges n'a pas de problème particulier avec Isabelle, même si une fois, elle a bien failli le coincer en salle d'interrogatoire. C'était pendant l'affaire Mr. Mercedes. Quand il avait fourré son nez dans une enquête sans autorisation. Mais à cet instant précis, il ne l'aime pas beaucoup. Il ne peut aimer personne qui fait se ratatiner Holly comme ça.
Sois raisonnable, Iz. Réfléchis. Si Holly n'avait pas trouvé ce machin, et purement par hasard, il serait encore là-bas. Admets-le. Vous n'alliez pas fouiller la maison.
Et vous n'alliez probablement pas téléphoner à la femme de ménage non plus,
dit Holly. Et bien qu'elle n'ait toujours pas levé les yeux de sa tasse de café, Son ton est tranchant. Hodges est content d'entendre ça. « On aurait contacté Alderson en temps voulu, » dit Izzy, mais son regard gris ténébreux se perd en haut à gauche. Le réflexe type du menteur, et Hodges sait, en la voyant faire, qu'elle et Pete n'ont pas encore discuté de la femme de ménage, même s'ils auraient sans doute fini par le faire. Pete Huntley est peut-être lent à la tâche, mais les gars lents à la tâche sont en général minutieux. On peut leur accorder ça. S'il y avait des empreintes sur ce jeu, dit Izzy, on peut leur dire adieu maintenant. Holly marmonne quelque chose dans sa barbe, et Hodges se souvient que la première fois qu'il l'a rencontrée, et totalement sous-estimée, il l'avait surnommée Holly la marmonneuse. Izzy se penche en avant. Ses yeux gris ont perdu leur voile gris ténébreux.
Qu'avez-vous dit ?
Elle a dit c'est absurde, dit Hodges, sachant parfaitement qu'elle a utilisé le mot stupide. Et elle a raison. Il était fourré entre l'accoudoir et le coussin du fauteuil de Madame Ellerton. Toutes les empreintes auraient été effacées, tu le sais. Et puis, alliez-vous vraiment fouiller toute la maison ?
C'est possible, oui, répond Isabelle, l'air renfrogné. En fonction des résultats de la police scientifique.
En dehors de la chambre et de la salle de bain de Martin Stover, il n'y avait aucune police scientifique sur les lieux. Ils savent tous ça, y compris Izzy. Et s'éterniser sur ce point n'a aucun intérêt.
« Du calme, » dit Pete à Isabelle. « C'est moi qui leur ai proposé de venir là-bas, et tu étais d'accord.
Je ne savais pas qu'ils partiraient avec... »
Elle ne termine pas sa phrase. Hodges attend la fin avec grand intérêt. Va-t-elle dire « avec une preuve » Une preuve de quoi ? D'addiction au solitaire ? À Angry Birds et à Frogger ?
Avec un bien appartenant à Madame Ellerton, » conclut-elle piteusement.
« Eh bien, tu l'as maintenant, » dit Hodges. « On peut poursuivre ? Parler peut-être de l'homme qui le lui a donné en prétendant que la compagnie était impatiente de connaître l'avis des consommateurs sur un produit qui n'est plus sur le marché ?»«
Et de l'homme qui les espionnait ?»
ajoute Holly, les yeux toujours baissés.
« L'homme qui les espionnait avec des jumelles depuis l'autre côté de la rue. »
L'ancien coéquipier de Hodges tapote le sachet contenant le capuchon enveloppé de mouchoirs.
« Je vais faire analyser ça pour les empreintes. Mais j'ai pas grand espoir, Kerm. Tu sais comment on enlève et remet ce genre de cache. »«
Ouais, » dit Hodges, en le pinçant. Et il faisait froid dans ce garage. Assez froid pour que mon haleine se condense. Le gars devait sûrement porter des gants.
« Pour le type de l'épicerie, tout porte à croire qu'il s'agit d'une espèce d'arnaque, » dit Izzy. « Ça en a la configuration. » Peut-être qu'il a téléphoné une semaine plus tard pour essayer de lui faire croire qu'en acceptant le jeu obsolète, elle était dans l'obligation d'en acheter un plus récent et plus cher, et elle lui a conseillé d'aller se faire voir. Ou il a pu utiliser les infos du questionnaire pour pirater son ordinateur.
« Pas l'ordinateur que j'ai vu, » dit Holly. « Il était plus vieux que Mathusalem. »
« Vous vous êtes bien baladé dans cette maison, hein ?» dit Izzy. « Vous avez aussi vérifié dans l'armoire à pharmacie pendant que vous meniez votre petite enquête ?»
C'en est trop pour Hodges.
Elle faisait ce que tu aurais dû faire, Isabelle, et tu le sais.
Le rouge monte aux joues d'Izzy.
On vous a appelé par courtoisie, c'est tout, et j'aurais préféré qu'on s'abstienne. Vous êtes toujours source d'ennui, vous deux.
Ça suffit, dit Pete.
Mais Izzy est accoudée à la table, penchée en avant, ses yeux passant du visage de Hodges au sommet de la tête baissée de Holly.
Ces deux mystérieux hommes, s'ils existent, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans cette maison. L'un d'eux manigançait une arnaque, l'autre était un simple voyeur.
Hodges sait qu'il devrait rester aimable, maintenir la paix et tout ça. Mais il n'y arrive tout simplement pas.
Un pervers, salivant à l'idée de mater une femme de 80 ans en train de se déshabiller ou de voir une tétraplégique se faire faire sa toilette. Ouais, bien sûr, ça tient la route.
Écoute-moi bien, dit Izzy. Maman a tué sa fille, puis s'est tuée. Elle a même laissé ce qui ressemble à un mot d'adieu, Z, la lettre finale. Ça peut pas être plus clair.
Z-Boy, pense Hodges. Celui qui se cache cette fois-ci sous le parapluie bleu de Debbie signe Z-Boy.
Holly lève la tête. Il y avait aussi un Z dans le garage, gravé dans le bois au-dessus de la porte. Bill l'a vu.
Zapit commence aussi par un Z, vous savez.
Oui, dit Izzy. Et Kennedy et Lincoln ont le même nombre de lettres, ce qui prouve qu'ils ont été tués par le même homme.
Hodges jette un coup d'œil à sa montre. Il doit bientôt partir, et c'est tant mieux. À part contrarier Holly et foutre Izzy en rogne, cette entrevue n'a été d'aucune utilité, et ne peut l'être, car Hodges n'a aucunement l'intention de dire à Pete et Isabelle ce qu'il a découvert cette nuit sur son propre ordinateur. Cette information pourrait leur faire opérer un virage à 180 degrés dans leur enquête. Mais il va la garder pour lui le temps de mener la sienne. Il ne veut pas croire que Pete ferait foirer l'affaire. Mais ça se pourrait. Parce que être minutieux ne veut pas dire être réfléchi. Et Izzy, elle ne veut pas être celle qui ouvre la boîte de Pandore emplie d'histoires de romans de gare à propos de lettres énigmatiques et d'hommes mystérieux. Pas quand la tragédie Ellerton Stover fait déjà la une du journal du matin, accompagnée d'un récapitulatif complet sur la façon dont Martin Stover s'est retrouvé paralysé. Pas quand Izzy se prépare à monter en grade dès le départ à la retraite de son actuel coéquipier.
« Pour faire court, dit Pete, on reste sur le meurtre-suicide et on tourne la page. On doit tourner la page, Kermit. Je pars à la retraite. » Izzy va se retrouver avec une multitude de dossiers sur les bras et sans coéquipier pour un bon moment grâce à ses foutues coupes budgétaires. Ça, là, il montre les deux sachets en plastique, c'est pas inintéressant. Mais ça ne change rien à la clarté des faits. À moins que tu penses qu'on a affaire à un maître du crime. Un maître du crime qui roule en vieille bagnole et raccommode son manteau avec du scotch.
Non, je ne pense pas.
Hodges se souvient d'un truc qu'a dit Holly à propos de Brady Hartsfield hier. Elle a utilisé le mot « architecte ».
Je pense que vous avez raison. Meurtre-suicide.
Holly lui jette un bref regard de surprise blessée avant de baisser les yeux.
« Mais tu veux bien faire quelque chose pour moi ?»«
Si je peux, oui, » dit Pete.
« J'ai essayé d'allumer la console de jeu, mais l'écran est resté noir. Sûrement plus de batterie. J'ai pas voulu ouvrir le compartiment à pile. » Parce que ça vaudrait le coup d'analyser les empreintes sur le petit bitonio coulissant.
Je veillerai à ce que ce soit fait, mais je doute...
Ouais, moi aussi.
Non, ce que je voudrais, c'est qu'un de vos experts le fasse démarrer et vérifie les différents jeux dessus, voir si rien ne sort de l'ordinaire.
Ok, dit Pete, qui remue légèrement sur sa chaise lorsqu'Izzy lève les yeux au ciel. Hodges n'en est pas certain, mais il pense que Pete vient de lui donner un petit coup de pied sous la table.
« Faut que j'y aille, » dit Hodges en attrapant son portefeuille. « J'ai raté mon rendez-vous d'hier. Je ne peux pas rater celui-ci. »«
C'est nous qui payons, » dit Izzy. « Avec toutes ces précieuses preuves que vous nous avez apportées, c'est le moins que l'on puisse faire. »
Holly marmonne autre chose dans sa barbe. Hodges n'en jurerait pas cette fois, même avec son oreille entraînée, mais il pencherait pour « garce ».